Vous êtes sur RTL.
Le mercredi, vous avez bossé aujourd'hui, vous allez être réveillé. J'ai entendu chez Grosse Tête, là, avec Laurent Ruquier.
Oui, j'ai pas quitté la maison aujourd'hui.
Mais surtout, vous êtes toujours là à 18h30, hein, le mercredi, l'œil de Valérie Trierweiler. Bonsoir quand même.
Bonsoir.
Vous avez encore choisi de nous parler d'une femme ce soir, mais alors pas n'importe laquelle. Hein.
Non, ce soir, j'ai décidé de vous parler d'une femme, donc on ne disait pas n'importe laquelle. Je vais vous parler de la femme la plus puissante du monde, celle-ci. Angela,
ça vient de loin quand même.
Donc ouais, voilà, je vais vous parler d'Angela Merkel parce que vous savez qu'elle va bientôt partir. Et lundi, nous avons assisté donc à son dernier conseil des ministres franco-allemand entre elle et Macron. On s'attendait à un petit peu plus des fusions entre les deux. Voilà. Mais non, il n'y a pas eu de déclaration d'amour, même par écran interposé.
Bon, ça dit, il reste quand même un petit peu de temps avant de partir.
Voilà, on le disait, septembre. C'est ça, enfin, septembre, c'est demain, hein. C'est juste après l'été, ça va passer vite. Mais ce qui est inhabituel, c'est que c'est elle qui a décidé de partir malgré une popularité à faire pâlir, mais n'importe quel dirigeant. Vous vous rendez compte, elle part avec 80% de cote d'amour. C'est-à-dire que si vous additionnez les cotes d'opinion des quatre présidents qu'elle a connus, 20 plus 20 plus 20, bah, à 4, ils arrivent au même niveau.
Il faut 4 voilà, présidents français quatre, pour en faire fin de
mandat.
Merkel.
Ouais. Je parle de fin de mandat. Bon, on peut reconnaître que si le moteur franco-allemand a bien continué à fonctionner malgré le changement de président français, qu'ils aient été de droite ou de gauche, c'est grâce à elle, à la tête de la première puissance économique européenne qui avait placé très haut cet idéal européen.
Mmh. Mais est-ce qu'on sait quel président français elle aura préféré Angela Merkel?
Vous savez, Merkel, elle aimait bien observer. Elle passait beaucoup de temps avant de les juger. Alors si on en croit l'excellente enquête de Marion van Rudengem dans son livre « C'était Merkel » aux arènes, elle nous apprend qu'elle a eu un faible pour Chirac et pour Macron. Mais ni Sarkozy ni Hollande n'étaient sa tasse de thé. Alors avec Chirac, elle partageait la bonne chair et le sens de l'histoire. Tous les deux, ils avaient connu les affres de l'après-guerre ou de la guerre. Elle, en ayant grandi en Allemagne de l'Est, en étant privée de liberté, et Chirac, en ayant connu les bombardements et l'exode lorsqu'il était enfant. D'où l'importance du lien franco-allemand qu'ils ont eu à cœur de faire fonctionner.
Bon, et alors avec Emmanuel Macron, quelles sont leurs relations, leurs vrais rapports?
Alors, elle l'a tout de suite regardé quand même avec intérêt. Elle a vu l'ascension de ce jeune homme qu'elle avait rencontré sous le mandat de François Hollande. Et puis, Macron, pas bête, est allé la voir à Berlin pendant sa campagne. Angela Merkel s'est reconnue dans sa démarche. Il venait de nulle part, et puis elle non plus au départ. Et puis, il voulait créer un espace ni de droite ni de gauche. Au centre donc.
Comme elle.
Et puis au centre droit, comme elle, disons-le. Bon, et puis malgré sa jeunesse, il était profondément européen, il partageait donc cette valeur essentielle avec elle.
C'est marrant que vous disiez malgré sa jeunesse, il était européen.
Oui, parce que de moins en moins, vous savez, il y a eu à cœur de faire cet axe franco-allemand après la guerre qui est en train de disparaître.
Bon, ça dit, ça a été la lune de miel alors entre Emmanuel et Angela?
Alors pas toujours. Vous savez, dans tous les couples, il y a des crises. Vous en connaissez, vous, Thomas, des couples?
Est-ce que vous voulez nous parler de quelque chose en particulier?
Pas du tout.
Non, d'accord,
je le vois, c'est comme ça, à travers les années, il y a toujours des crises dans les couples. Alors des crises, elle en a traversé avec tous les présidents. Tous. Il y a des crises financières, des crises économiques, etc. Mais avec Macron, ça aurait été la plus longue, celle liée au Covid. Alors au début de l'épidémie, ils sont partis chacun de leur côté, chacun avec leur propre solution. Ils ont fermé les frontières. Et puis finalement, ils ont compris qu'ils ne s'en sortiraient qu'ensemble. Et donc, ils ont fait cet accord, ce plan d'endettement colossal, et en faisant sauter le verrou du sacro-saint 3% de déficit, ce qui n'était pas rien.
Bon, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer alors?
Ce qui va se passer, maintenant, il reste qu'à souhaiter bon courage à son successeur, parce que ça va être difficile. Le successeur ou successeureux va devoir subir la comparaison avec Merkel. Mais ce successeur, le prochain chancelier, va devoir aussi faire preuve d'audace pour sauver l'Europe face à la montée des eurosceptiques. Comme je vous disais, c'est en train de monter de plus en plus. Et aussi pour surmonter cette dette historique et colossale de 750 milliards d'euros.
Bonne chance. Merci à vous Valérie. Demain, on retrouvera
Philippe Cavrivière.
Absolument, il sera la fidèle au poste. Elle a réussi à faire parler les porte-paroles du gouvernement sans langue de bois, ce qui en soi est déjà un exploit. Elle en a fait un livre savoureux, plein d'anecdotes et au final formidablement humain. Il s'appelle Profession paratonnerre. Elle s'appelle Anne Sora Dubois et elle est l'invitée d'RTL Soir tout de suite.
Thomas Soto.